Dans cette théorie des réserves fractionnaires, ce que l'on appelle multiplication de la monnaie correspond en réalité à la circulation d'un stock de monnaie émis par la banque centrale, les 100 euros initiaux, dont le passage est enregistré par les promesses, les montants inscrits sur les comptes en banque, et les crédits faits par les banques de dépôt. Que pouvons-nous conclure de cet exemple? Principalement que la banque centrale contrôle tout ce qui se passe. En effet, les 100 euros ne peuvent pas être déposés et prêtés à l'infini parce que les banques sont obligées de constituer des réserves obligatoires, le fameux 1%. Ainsi, tant que le taux de réserve obligatoire n'est pas nul, la banque centrale peut prédire la manière dont la monnaie qu'elle injecte va être multipliée. Plus le taux est élevé, plus la circulation de la monnaie est entravée, moins l'effet de multiplication est important. À titre d'exemple, si un taux de réserve obligatoire de 1% permet une multiplication du montant initial par 100, 1 divisé par 0,01 égale 100, ça me fait plaisir, un taux de 5% réduit l'effet à une multiplication par 20. 1 divisé par 0,05 égale 20. Allez, j'arrête. La théorie des réserves fractionnaires nous explique donc qu'il y a deux types de monnaie. La monnaie centrale, personne ne s'est foulé sur ce coup-là, et la monnaie scripturale, les promesses faites par les banques, c'est-à-dire les montants inscrits sur les comptes en banque. La monnaie centrale est essentielle pour que le système fonctionne. C'est grâce à elle que la multiplication de la monnaie s'enclenche. Mais la monnaie effective, celle qui matérialise notre pouvoir d'achat, est la monnaie scripturale, les promesses faites par les banques. Le point le plus important, c'est que c'est bien la banque centrale qui, via des équations force à vente, décide du montant initial à injecter et donc contrôle la quantité totale de monnaie que nous pouvons utiliser dans le système. C'est la faute du système. En quoi cela est-il important que les agents économiques n'aient aucun contrôle sur la quantité de monnaie? Cela permet de conserver les modèles qui considèrent le système financier comme un simple intermédiaire. Puisque la banque centrale contrôle la quantité de monnaie et qu'elle n'est ni une entreprise qui cherche à maximiser ses bénéfices, ni un particulier qui vise la maximisation de son bien-être, ni un gouvernement dont l'objectif est la réélection, mais une institution indépendante dont l'objectif est la stabilité du niveau général des prix, nous y reviendrons, alors la quantité de monnaie ne dépend pas des agents économiques. Conclusion, on peut garder les anciens modèles. Une théorie confortable car conservatrice. Cette théorie est particulièrement attractive pour certains économistes car cela leur permet de continuer de modéliser un monde dans lequel la ressource monétaire représente une contrainte extérieure à l'activité économique. J'entends par « contrainte extérieure », en réalité on dirait plutôt « contrainte exogène » pour avoir la classe, le fait que les agents économiques n'ont aucun contrôle sur la masse monétaire. Ce ne sont pas eux qui décident de la quantité de monnaie disponible. Il n'est pas question dans cette théorie que les banques puissent choisir de garder des réserves supérieures à 1%, juste au cas où, ou encore qu'elles ne puissent pas prêter à cause d'un manque de demande de crédit de la part des agents économiques. Tout est supposé se passer comme si banques de dépôt et emprunteurs n'avaient aucune volonté propre et que tout ce petit monde multipliait gentiment la monnaie autant que possible, instantanément et systématiquement. Ainsi, la théorie des réserves fractionnaires est très proche de celle des intermédiaires. Dans les deux cas, les banques sont des entremetteurs et la quantité de monnaie ne dépend pas du bon vouloir des agents économiques. Cela permet de modéliser un marché de la monnaie qui, de la même manière que n'importe quel autre marché, s'autorégule en fonction de l'offre et de la demande. Pour que cela fonctionne, il faut une ressource disponible en quantité limitée, donc rare ou du moins dont la quantité est indépendante du bon vouloir des agents économiques, et de la concurrence. Dans le cadre du marché de la monnaie, les offreurs sont les épargnants qui ont accumulé des revenus, Les demandeurs sont tous les agents économiques qui en ont besoin, États, particuliers et entreprises, et le prix de la monnaie est le taux d'intérêt qu'il faut payer lorsque l'on souscrit un prêt. Le mythe de la loi de l'offre et de la demande. Même si ce n'est pas réellement le propos de ce livre audio, je pense que le fameux compromis, les économistes parlent de prix d'équilibre, soi-disant permis par l'opposition des forces de l'offre et de la demande, se doit d'être gentiment débunké. En théorie, tout fonctionne merveilleusement. Les offreurs veulent faire monter le prix de la ressource qu'ils viennent de produire, mais parce qu'ils sont en compétition avec d'autres offreurs, ils doivent baisser leur prix pour être compétitifs. Les demandeurs, de leur côté, ne peuvent pas fabriquer ou faire apparaître la ressource dont ils ont besoin. La ressource est rare. Ils doivent donc se rendre sur le marché pour négocier avec les offreurs. Les demandeurs adoreraient contraindre les offreurs à faire diminuer le prix de la ressource dont ils ont besoin, mais parce qu'ils sont en compétition avec d'autres demandeurs, ils sont obligés d'accepter des prix plus élevés. L'équilibre entre les intérêts contraires des offreurs et des demandeurs, combiné à la concurrence et à la rareté de la ressource, permet d'aboutir à un compromis idéal. Le prix ne peut pas baisser davantage sans mettre les offreurs en faillite, mais il ne peut pas non plus monter davantage sans que les demandeurs se retirent du marché. Tout est parfait. Il n'y a pas besoin d'intervenir ou de réguler quoi que ce soit. Le marché est la réponse. Il permet de trouver l'unique juste prix qui satisfait le plus grand nombre. Parce que ce prix est unique et stable dans le temps, il correspond à un idéal. Si, sur chaque marché, il n'existe qu'un seul prix d'équilibre qui satisfait le plus grand nombre, alors atteindre ce prix permet aussi l'avènement d'une société juste où chacun est rémunéré à hauteur de sa contribution, telle qu'estimée par le plus grand nombre. Je prends pas mal de raccourcis, mais l'idée reste correcte. Sauf que le procédé que je viens de décrire correspond à un tâtonnement. Les offreurs et les demandeurs s'échangent des marchandises à des prix différents qui ne sont pas le prix d'équilibre, jusqu'à ce que celui-ci soit trouvé. Combien de temps cela prend-il? Et d'ailleurs, comment peut-on être sûr que l'on finit toujours par l'atteindre? Après tout, à partir du moment où une entreprise arrive à vendre des marchandises à un prix différent du prix d'équilibre, les revenus qu'elle génère ne sont pas justifiés. Ils sont soit inférieurs, soit supérieurs au fameux compromis idéal. Ainsi, la rémunération des employés et des actionnaires, qui dépend du prix de vente, n'est pas justifiée non plus. Cela signifie que le pouvoir d'achat non idéal de ces agents vient perturber la demande d'autres marchandises dont ils vont se porter acheteurs. Bref, les prix ont un impact sur l'ensemble du système. Comment s'assurer que toute cette mécanique pleine de boucles de rétroaction, en partant de prix qui ne sont pas ceux de l'équilibre, converge bien vers le compromis idéal? La réponse est donnée par un théorème mathématique appelé Sonnenschein-Mantel-Debreu. Et sa conclusion est très claire. La convergence vers un prix unique et stable qui équilibre tous les marchés ne se produit pas. Soit on tâtonne à l'infini dans le noir, équilibre instable, soit il existe plusieurs points d'équilibre stable et on ne dispose d'aucun moyen théorique d'en choisir un plutôt qu'un autre. Autrement dit, le compromis idéal est un mythe. La loi de l'offre et de la demande n'aboutit à rien d'autre qu'à une variation constante des prix. On tâtonne dans le noir à l'infini, ou à un compromis aléatoirement sélectionné par la danse des prix parmi une multitude d'autres. Les incohérences de la théorie des réserves fractionnaires. Bien que pratique pour certains économistes, la théorie des réserves fractionnaires n'est pas cohérente avec certaines observations. Première incohérence, le taux de réserve obligatoire fixé par la Banque centrale devrait être l'outil principal de régulation de la quantité de monnaie. Quand ce taux est de 1%, les banques de dépôt devraient immédiatement créer 100 fois plus de monnaie scripturale qu'elles n'ont reçue de monnaie centrale.